20. Le pas sur l'abîme. Comme un nuage sent tomber ses tourbillons, il sentait s'écrouler ses forces dans le gouffre. L'hiver murmurait « tremble » et l'ombre disait « souffre ». Victor Hugo. Sans le tison rapporté par le page, les ravisseurs et la duchesse se seraient retrouvés dans un noir de suie. Même avec le brandon, le colimaçon était si roide et si étroit qu'on y voyait à peine. Les carrures cuirassées des combattants occupaient toute sa largeur et occultaient la lumière. Les escaliers tournaient de façon si serrée qu'il était impossible d'embrasser d'un seul coup d'œil le petit groupe. On n'y percevait guère que ses voisins immédiats. À peine entré, Kell se rendit compte que Nem se trouvait en contrebas. Après avoir fermé lui, le chevalier Auget s'apprêtait à lui emboîter le pas. « Pas par là !» s'écria le page. « Il faut monter !»«
Ce serait plus sensé de descendre si on veut rejoindre les souterrains !» grommela l'écuyer.
« Je n'ai pas exploré ce coin-là !» rétorqua le freluquet. « Allez savoir où ça donne, tandis que je connais le chemin par en haut !»
Nem poussa un soupir qui trahissait plus l'épuisement que l'irritation. Endolori par ses blessures, sans doute lui aurait-il été moins pénible de descendre le raidillon plutôt que le remonter. Non loin, le tumulte d'une ruée se répercutait à travers les murs.
« Vidons les lieux !»
lança le chevalier de Vaumacel, quelque part en surplomb.
« L'ennemi sera sur nous d'un instant à l'autre !»«
Je passe devant !»
décréta Kell avec insolence.
« Il y a des endroits dangereux, et j'ai de la lumière !»
Il dut d'abord se faufiler entre le mur et le flanc cuirassé du chevalier au pied. Assez étourdiment, il n'avait pas pensé qu'il faudrait également frôler la duchesse. Dans ses ténèbres de cave, elle avait rabattu son châle improvisé. Kell n'eut qu'un semblant d'appréhension. Et puis, mobilisant plus d'effronterie que de courage, il se glissa presque sous le bras de la haute dame. Il lui jeta un coup d'œil par-dessous, en piétinant sa traîne au passage. La lueur de son brandon accentua les ombres qui mangeaient cette altière figure et alluma une phosphorescence au fond des orbites caves. Pour masquer son inquiétude, le page eut le toupet de flatter « Comme vous avez de grands yeux !» Il se dépêcha ensuite de dépasser son maître, se tortillant entre la paroi et le grand harnois ensanglanté. Dans sa précipitation, il faillit d'ailleurs éteindre son tison. Sans marquer le pas, il tira une bougie de son aumônière et l'alluma à la braise. Au bout de quelques marches, il perdit le reste du groupe et trépigna en maugréant. Ce n'était pas le moment de flâner. Odéarde avait bloqué le mouvement. Le page, en passant le coin de l'escalier, venait de la replonger presque complètement dans les ombres et elle refusait de bouger. Le sire de Vaumacel se retourna vers elle.
« Dame, suivez-moi ou vous montrez de force !»
gronda-t-il en lui saisissant le coude.
« Vous n'avez nulle autorité sur moi, vous moins que tout autre !» protesta la captive.
« Sire Ameline est derrière vous, si vous n'obéissez point, je n'aurai plus le pouvoir de vous en protéger.
« Vous me paierez ces outrages au centuple !»
s'offusqua-t-elle. Mais elle se remit en marche. Sitôt que Kell vit son maître réapparaître derrière l'axe de l'escalier, il reprit l'ascension en trottant. Derrière lui montait une rumeur de piétinement et de cliquetis que ponctuaient parfois des grognements de douleur. Le page constata qu'à coudoyer les blessés, il avait maculé de sang son joli hoqueton. Il en éprouva un certain déplaisir, car les taches seraient difficiles à ravoir. En des circonstances plus calmes, le bruit que faisaient les intrus dans ce goulet aurait pu les trahir, mais tout l'hôtel seigneurel retentissait de cris et de cavalcades. Juste derrière le mur courbe qui longeait, les fugitifs pouvaient entendre, à peine assourdis par la cloison, le grondement de galopades dans le grand escalier. La troupe qui avait forcé l'entrée venait de rejoindre celle qui avait été tenue en échec, et parmi les éclats de voix, on pouvait reconnaître les vociférations du seigneur de Verre qui ne comprenait pas comment les agresseurs avaient pu lui glisser entre les mains. Kell et les ravisseurs, accélérèrent le pas, entraînant malgré elle la duchesse rétive. Ils n'avaient pas monté très haut quand l'inévitable se produisit. Ils entendirent qu'on ouvrait brusquement la porte du cornu. L'étroitesse de l'escalier à vis leur fournit un fragile sursis. Comme ils avaient déjà tourné plusieurs fois en spirale, la bougie de Kell ne révéla point leur présence. Le sire de Vaumacel plaqua une main gantelée contre la bouche de Déarde pour étouffer son cri. Ils crurent néanmoins qu'ils étaient découverts, car ils entendirent la voix de Rivalon toute proche, exiger qu'on lui apportât de la lumière.
« À moi !»
s'écria l'écuyer du seigneur de Verre au bout d'un instant.
« Ils sont ici ! Il y a des traces de sang !»
En serre-file, Nem et le chevalier Auget se retournèrent, résolus à défendre leurs arrières. Presque aussitôt, tout le colimaçon résonna d'une bousculade. Mais, trompé peut-être par le faux départ de l'écuyer en contrebas du palier, Rivalon entraîna la soldatesque de Verre en direction du rez-de-chaussée et des sous-sols. Parmi les poursuivants, personne ne soupçonna que les intrus avaient pu avoir l'initiative de remonter vers les étages. Tandis que Nem poussait un soupir de soulagement, le chevalier Auget se mit à rire sous cape. Profitant du vacarme que faisait la garde de Verre, la petite bande de fugitifs reprit son ascension. Kell parvint plus tôt qu'il ne s'y attendait à la volée encombrée de gravats. Levant sa bougie, il découvrit dans le plafond la brèche par laquelle il avait failli chuter quelques jours auparavant. Du geste, il mit en garde la compagnie contre ces dangers. Lorsqu'il fallut franchir la crevasse ouverte par l'effondrement de deux marches, les blessés ralentirent, mais la duchesse, qui parut brièvement tentée par la chute, sauta par-dessus l'obstacle avec une souplesse un peu désarticulée. Bien que des appels et des cris retentissent toujours au fond de la cage d'escalier, il devint clair que les fugitifs s'éloignaient de leurs poursuivants.
« On y est !»
jubila soudain Kell, éclairant le battant d'une porte au sommet des marches. Et au mépris de toute prudence, il l'ouvrit largement sitôt qu'il l'eut atteint. Un jour blanc découpa brusquement le chambranle et la volée hélicoïdale de degrés. Le sire de Vaumacel eut le réflexe de lever le bouclier pour en couvrir la duchesse, qui, les deux bras dressés devant le visage, recula néanmoins jusqu'à buter contre la cuirasse du chevalier au pied. L'aventureux, révulsé, la repoussa brutalement en avant, tandis qu'Edan la recouvrait vivement de l'étoffe arrachée aux courtines de son lit. Comme la dame continuait à résister, les deux chevaliers la tirèrent dehors. Malgré la brise qui soufflait à ses hauteurs, le brouillard était encore épais. Il dérivait telle une fumée froide, parfois fine comme la gaze, parfois dense comme du feutre. Une fois l'éblouissement du seuil passé, la lumière du soleil paraissait fort pâle. Sur l'étroite terrasse où les fugitifs venaient de déboucher, l'atmosphère était trop bouchée pour qu'on pût mesurer l'altitude déjà vertigineuse. Le toit d'ardoise de l'hôtel Seigneurel se fondait dans l'indistinct au bout de quelques toises. Derrière les créneaux, le vide souhaitait de vapeur. Dans cette atmosphère floue, les silhouettes des hautes statues qui sommaient la façade se nimbaient d'une prestance aussi menaçante que vague. Si la brume endormait le vertige, elle n'annulait point le sentiment d'urgence et de péril. Les cours et les remparts invisibles retentissaient d'un branle-bas de combat. Une cacophonie d'aboiements, de rumeurs affolées et d'ordres rageurs montait à l'assaut des toits. Sous les pieds des intrus et de leurs captives, tout l'hôtel seigneurel vibrait d'un remue-ménage aussi bruyant qu'une mise à sac. Les gens de Verre les recherchaient furieusement à travers appartements, salles et galeries. Parmi les commandements hurlés depuis les fenêtres et repris de loin en loin sur les chemins de ronde, l'un d'eux sonna particulièrement funeste. La fermeture de toutes les portes des castels. Toutefois, ce vacarme monté des profondeurs se mariait à d'autres turbulences moins criardes et plus amples qui frissonnaient dans les hauteurs. Glissant et s'enroulant entre les tours, le vent sifflait des airs lugubres. Y expirait une polyphonie chantée par le tuffeau des bretèches, la lose des toitures, le grincement des girouettes. dans l'atmosphère nébuleuse, on aurait presque pu croire que les statues bourdonnaient un cœur dans une languissante harmonie. Après s'être réfugiée dans l'ombre de la tourelle dont elle avait été sortie de force, la duchesse se figea, la tête dressée sous les plis de son châle, comme si elle tendait l'oreille. Nem et Adan s'appuyèrent au mur à côté d'elle, le souffle court. L'écuyer eut le regard attiré par quelques gouttes écarlates qui rougissaient le dallage à leurs pieds. Puis son attention flotta jusqu'au bouclier de son seigneur. Il écarquilla les yeux. Peut-être parce que le blason, martelé de coups, avait en partie perdu sa peinture. Le vieux servant d'armes n'y découvrit plus que deux épines. D'un geste du menton, Nem voulut attirer l'attention du sire de Vaumacel sur cette lacune, mais le chevalier avait l'esprit ailleurs. Peut-être était-il si épuisé qu'il cherchait uniquement à récupérer. Mais comme sa prisonnière, il semblait écouter quelque chose.
« Je ne rêvais pas, n'est-ce pas ?»
murmura la duchesse.
« Vous l'entendez à présent, cette musique ?»
Le sire de Vaumacel ne répondit point. Les deux aventureux, quant à eux, s'alarmaient de l'étroitesse de leur perchoir. 6 personnes suffisaient à encombrer ce belvédère, et ils ne voyaient aucune échappatoire hormis l'escalier qu'ils venaient d'emprunter.
« Ah ça ! Quelle est cette perfidie ?»
s'écria le chevalier au jet.
« Ai-je la berlue ? Pas la moindre issue ?»«
Bien sûr que si !»
rétorqua-t-elle d'un air suffisant.
« Suivez-moi donc, par ici !»
Et filant vers le parapet de la plateforme, il grimpa sur un merlon, puis de là, sauta sur le premier degré du pignon en redant qui dominait le vide.
« Tu es complètement fou, mon garçon !»
se récria Nem. « Nous allons nous rompre les os !»«
Oh ! Tout de suite, les grands mots !»
soupira le page.
« C'est quasi un escalier. En plus, avec le brouillard, on n'a même pas le vertige !»
Les gens de guerre hésitèrent à s'engager sur cet escarpement. Toutefois, ils n'eurent guère le temps de balancer.
« J'entends du bruit en dessous !» s'alarma le chevalier au pis. « Nos ennemis commencent à remonter !»
Quel, qui avait déjà escaladé la moitié du pignon et se perdait à demi dans la brume, leur fit à nouveau signe de suivre.
« Votre équipée va tourner court ?»
railla la duchesse. « Comptez-vous jouer à chat perché avec mon fils ? Sitôt que la brume se lèvera, il vous fera tirer sur les toits comme de vilains choucas. »
Comme le sire de Vaumacel voulait lui saisir le coude pour l'entraîner vers le brise-cou emprunté par son page, elle retira sèchement son bras.
« C'est inutile !» lâcha-t-elle.
« Au moins, cette ridicule escapade va me permettre d'élucider un mystère. Je vais enfin savoir qui s'amuse à danser dans les soupentes. »
Tout en continuant à voiler son visage, la grande dame retroussa l'ourlet de sa robe sur des mollets blanchâtres et, précédant ses ravisseurs, grimpa sur le parapet puis sur le pignon comme elle aurait monté sur un escabeau. Sa hardiesse inspira à elle un rire admiratif, avant qu'il repartît se fondre dans les hauteurs. Nem ne cacha pas sa stupéfaction, et les aventureux eux-mêmes eurent l'air assez surpris. Edan emboîta le pas à la duchesse sans attendre, suivi par le chevalier Hopi qui, en raison de sa jambe blessée, ne paraissait pas très assuré. Nem, réticent à jouer les funambules, mit encore quelques instants à se décider. Le chevalier Auget, parce qu'il était le seul combattant encore indemne, se chargerait de fermer la marche. Parvenu au sommet du pignon, Kel sauta sur le faîtage du toit et au bout de quelques pas, se retourna dans un équilibre instable pour s'assurer qu'on le suivait bien. Derrière lui, Odéarde se hissait sans la moindre hésitation sur les derniers redans de pierre. Elle finit par se dresser au bord du vide, à la pointe du toit,
laissant sa robe flotter dans le vent, mais conservant la tête enfouie sous son chaperon improvisé. Perché à cette altitude, défiant le vertige et les nuées, elle n'avait plus grand-chose d'une grande dame entraînée par des ravisseurs. Aux yeux du page, elle prit l'allure d'une sorcière tout juste posée sur les toits, prête à reprendre son vol sitôt que soufflerait une rafale. Les plis de l'étoffe qui couvrait son visage étaient trop amples pour que le freluquet pût en distinguer l'expression. Il eut juste l'impression qu'elle levait la tête, comme si elle écoutait les sifflements du vent. Puis le capulaire redescendit un peu et s'orienta vers le page. Avec un frisson d'excitation et de peur, Kell eut le sentiment que l'attention de la duchesse s'arrêtait sur lui et qu'elle n'avait rien de bienveillant. Ralenti par leurs blessures, le sire de Vaumacel et le chevalier Opi émergeaient à peine du brouillard à mi-pente de la corniche. Ils n'étaient pas en mesure de protéger le petit valet. Alors, se redressant d'un air plein de défis, le garnement lança « Attrapez-moi, si vous pouvez !» Faisant volte-face, il partit au trot sur l'arête du toit, en battant parfois les bras pour ne pas verser d'un côté ou de l'autre. Aussitôt, il entendit le froufrou des robes lancées à sa poursuite. Un coup d'œil par-dessus l'épaule lui livra une vision inquiétante, celle d'une silhouette tassée sur elle-même, mais véloce, au pas sûr, qui commençait à le gagner de vitesse dans un tourbillon de sami et de brocart. Il faillit en déraper, se rétablit d'extrême justesse et se mit à courir au mépris de toute prudence.
« Que faites-vous? Attendez !»
les appela le sire de Vaumacel, sans oser trop élever la voix. Négligeant sa plaie, il prit également des risques et escalada 4 à 4 le sommet du pignon. Le chevalier Opi lui emboîta le pas, sans doute de crainte de voir Odéard leur échapper. Ils se précipitèrent à leur tour sur le faîte, mais la jambe blessée d'Ameline le trahit. Trop sollicitée, elle se déroba sous lui. Il heurta durement la toiture d'ardoise et commença à glisser sur la pente dans un grand fracas de ferblanterie. Lâchant son épée, qui dégringola vers le vide, il parvint néanmoins à agripper les tuiles faîtières. Alerté par ce vacarme, Edan n'eut pas l'ombre d'une hésitation. Faisant demi-tour en 2 pas, il portait assistance à l'aventureux. Accroupi sur le faîte, un pied sur chaque pan de toit, il lui saisit fermement le poignet pour l'aider à remonter. Nem, qui arrivait précautionneusement, leur porta assistance. Mais l'effort arracha des grognements de douleur aux 2 blessés. Au même moment, Kell atteignait la muraille de la tour à laquelle était accotée la toiture de l'hôtel seigneurel. Il s'apprêtait à se hisser sur la fenêtre à meneaux à sa portée quand il fut rattrapé par la duchesse. À travers le matelassage des robes, il sentit soudain un corps maigre, presque osseux, le coincer contre le mur. Une main légère, mais dotée d'une poigne de fer, lui tira brusquement les cheveux. Le capuchon informe de la poursuivante se pencha sur son cou détiré en arrière.
« Méchant drôle, tu croyais vraiment m'échapper ?» susurra la duchesse.
Ces mots qui sonnaient un peu caverneux furent coulés de si près que le page sentit des lèvres froides contre son lobe. Il eut l'impression bizarre qu'Odéard s'apprêtait à l'embrasser ou à lui mordre l'oreille. Mais plus que la brutalité, l'intimité ou la peur, qu'elle fut surtout suffoquée par l'haleine de la dame. Une bouffée aromatique qui monta à la tête du freluquet, comme s'il avait cherché à s'étourdir en humant un encensoir. La prise sur ses cheveux se raffermit avec cruauté, et le page eut le réflexe de s'accrocher des 2 mains au rebord de la fenêtre voisine, car il eut soudain l'intuition que la duchesse s'apprêtait à le faire basculer dans le vide. Cette dangereuse empoignade prit un tour inattendu quand, sans avertissement, la façade de la tour adopta une teinte blonde, tandis que l'ombre difforme du couple formé par le page et la duchesse se peignait sur le mur. Le vent venait de déchirer la brume et le soleil réapparut brièvement. faisant miroiter les toits d'ardoise. Des traînes nuageuses s'accrochaient çà et là aux échauguettes et aux remparts, mais cette percée dévoila soudain le gouffre au fond duquel s'abîmait la cour du faître. Des cris éclatèrent sur le chemin de ronde. Les fugitifs venaient d'être repérés. La duchesse fut prise d'un frisson. Sa main gauche, crispée comme une griffe, perça presque le costume du page, au point de lui labourer les côtes, tandis que la droite manquait de lui décoller le cuir chevelu.
« Aïe !»
regimba Kell sur un ton plus révolté que suppliant.
« Ça fait mal !»
Un nouveau banc de brume, chassant l'éclaircie, replongea les cimes castrales dans la pénombre. Et les prises d'eau des hardes se desserrèrent.
« Mes gens ne tarderont plus à vous faire un sort, »
murmura-t-elle.
« Mais si tu es obéissant, peut-être consentirai-je à t'épargner. Es-tu prêt à faire ce que je te commanderai ?»«
Je suis prêt à tout, pourvu que vous arrêtiez de m'arracher les cheveux,
petit blanc-bec. »
Ces mots furent ponctués par une traction assez brutale sur la nuque du garçon. Toutefois, comme le pas mal assuré des chevaliers et de Nem repartait sur la toiture, la duchesse relâcha son étreinte.
« Voici ta chance, » reprit-elle. « Saisis-la au vol, et tu ne seras point écorché. »
À ton plus bas, elle souffla alors une étrange question.
« Entends-tu les échos du bal ?»«
Je n'entends que cela !»
mentit le page avec aplomb.
D'où provient la musique?
Des étages au-dessus. On danse sous les combles. Un vrai sabbat.
Guide-moi jusque-là. Et je te pardonnerai, peut-être.
Alors il faut se glisser à l'intérieur par cette fenêtre,
répondit Kell le plus naturellement du monde, avant d'ajouter avec une pointe de rouerie.
Et puis, au moins, dans la tour, on sera à l'ombre.
Peut-être avait-il escompté que sa persécutrice se précipiterait la tête la première dans l'ouverture. La ruse était toutefois grossière, et Odéarde, malgré son comportement bizarre, ne donna pas dans le panneau. Avec une force toujours aussi surprenante, elle hissa le page sur le rebord de la fenêtre. Il se raccrocha au chambranle pour ne pas tomber dans le vide qui s'ouvrait à l'intérieur. Pour maquiller sa fourberie, il jugea bon de lancer davantage à destination de son seigneur que de la duchesse.
« Prenez garde ! Il n'y a que des poutres, mais pas de plancher là-dedans !»
Alors que le sire de Vaumacelle et le chevalier Hopi étaient sur le point de la rejoindre, la duchesse se jucha dans l'embrasure à côté du page. Qu'elle crut entendre un ricanement sous l'épais capulet. Mais la proximité des chevaliers le mit à l'abri de nouveaux sévices. Le brouillard qui stagnait dans la tour creuse lui donnait un aspect très différent de celui que le page y avait découvert lors de sa première reconnaissance. Il y faisait beaucoup plus sombre, et entre les rares traverses jetées sur le vide, il était impossible d'estimer la profondeur de la chute, pas plus que le sommet du puits n'était visible. Le vent sifflait par les cheminées ouvrant aux étages inachevés et huchait comme un orchestre de bois mal accordé. Les courants d'air enroulaient parfois des torrents vaporeux qui tourbillonnaient une danse lasse. Peu désireux de s'attarder au contact d'Odéarde, Kell sauta à pieds joints sur la solive qui le mènerait à l'autre bout de l'édifice. Il sentit la poutre vibrer légèrement sous sa semelle, quand la duchesse se laissa tomber derrière lui beaucoup trop vite à son goût. Le page repartit entre-temps, mais l'atmosphère voilée brouillait ses repères et lui fit perdre de son assurance. Derrière eux, Edan et Ameline se figèrent dans l'embrasure de la fenêtre quand ils découvrirent le plongeon qui s'ouvrait sous leurs pieds.
« Corps de roi ! Kell, sais-tu vraiment où tu vas ?»
s'écria le sire de Vaumacelle.
« Bien sûr. Par là, en face, il y a un escalier. Un véritable escalier, »
répondit le freluquet. Mais son ton manquait de fermeté. Sur cet étroit madrier, le trottinement qui le talonnait était désagréablement proche. Pour ne rien arranger, la brume se faisait si épaisse que le page n'était pas absolument certain d'avoir sauté sur la bonne poutre. Pis que tout, d'autres voix, assourdies et vieillottes, s'élevaient des profondeurs embuées avec des chuintements de bouches édentées.
« Tiens, te revoilà, joli varlet.
Petit, hé, petit, par ici. Tu pourrais nous dire bonjour, mal appris.
On t'a gardé une place dans la compagnie.
On te mignonnera gentiment, n'aie crainte. »
Quelle fit la sourde oreille. Il avait suffisamment de soucis sur les bras comme cela. Il n'était pas d'humeur à provoquer les occupants des combles. Les éclats d'une escarmouche couvrirent les chuchotements insidieux. Sur la terrasse, au débouché de l'escalier du cornu, le combat reprenait. Le page devina que le chevalier au jet, resté en arrière-garde, interdisait la sortie de la tourelle aux poursuivants. Il n'était que plus urgent de fuir vers les hauteurs. Contrairement à ce qu'il avait craint, le freluquet ne s'était pas trompé. Il trottait bien sur le chevron menant à l'escalier pris dans la muraille. Dans cette pénombre, l'entrée se dessinait telle une bouche d'obscurité. Du coin de l'œil, Kell crut aussi entrevoir des choses bizarres. À peine distincte dans la brume, la fresque qui ornait les murs dansait toujours en une grotesque mascarade, mais les musiciens paraissaient désormais avoir tous une tête de cerf. Le page fit mine de ne s'être aperçu de rien. Il franchit le seuil ténébreux et, n'ayant plus sa bougie, trébucha sur les premières marches. Il se reçut durement sur les arêtes des degrés, ignora la douleur, se releva et décampa de plus belle. Il gravit la volée 4 à 4 à l'aveugle. Le froissement des robes derrière lui suffisait à lui donner des ailes. Par un étrange effet d'écho dans ce corridor courbe, le trottinement de la duchesse se répercutait plus haut le long des murs, comme si quelqu'un d'autre sautillait devant le petit valet. Le souffle court, il avait l'impression qu'un cœur de respiration poussive l'accompagnait dans sa fuite. Ce fut avec un violent soulagement qu'il entrevit la lueur d'un chambranle au sommet de l'escalier.
« Par ici !»
s'exclama-t-il.
« On arrive sur le chemin de ronde !»
C'était tout à fait faux. Et Kell, qui se souvenait parfaitement de la configuration des lieux, le savait pertinemment. Mais quel meilleur moyen de se débarrasser de la mégère qu'il avait rudoyée. Après tout, dans la précipitation, il était humain de se tromper où la langue pouvait fourcher. Qui oserait sérieusement l'accuser d'avoir menti? En contrebas, les gens de guerre se trouvaient distancés. Seul le sire de Vaumacel avait vu son page et la duchesse se fondre dans les ombres à l'intérieur de la tour évidée. Il s'était toutefois attardé, en équilibre sur le rebord de la fenêtre à meneaux, pour aider son écuyer et le chevalier au pis à se hisser avec lui. Le tumulte tout proche du combat qui venait de reprendre un peu plus bas les avait fait hésiter. Le brouillard s'étant refermé sur la tourelle du cornu, il était impossible de voir ce qui s'y nouait. Toutefois, un rire moqueur de Cadelin les avait rassurés. Le chevalier au jet, qui occupait une position en surplomb où ses adversaires ne pouvaient l'attaquer qu'un par un, se trouvait en position de force. L'escarmouche ne dura guère. Bientôt, après avoir repoussé un premier assaut, l'aventureux émergeait de la brume au sommet du pignon. Il entreprit crânement de trotter sur le faîtage en faisant signe que tout allait bien. C'était peut-être faire preuve d'une confiance excessive. Un peu partout dans la forteresse, des clameurs sauvages convergeaient.
« L'hôtel Seigneurel ! Ils sont sur les toits de l'hôtel Seigneurel !»
En contrepoint de ces rugissements furieux, un cri perçant tomba des hauteurs. Le sire de Vaumacel et son écuyer sursautèrent. C'était la voix du page, qui piaillait avec un accent ne lui ressemblant guère. Partant dans les aigus, ses piaulements exprimaient un mélange d'épouvante et de douleur. Sans attendre le chevalier au jet, Edan sauta gauchement sur la poutre qu'avait empruntée son valet. Nem le suivit en vouant le galopin à tous les diables. Dans un équilibre précaire, utilisant parfois leurs armes comme des balanciers, ils traversèrent la tour creuse et gravirent l'escalier ménagé dans l'épaisseur de la muraille. De nouveaux glapissements terrifiés leur firent accélérer le pas, en dépit de l'obscurité et de leurs blessures. Le palier supérieur débouchait sur une embrasure ouverte vers l'extérieur de la tour. Sur le seuil qui se découpait dans la nébulosité grisâtre, ils découvrirent d'abord la silhouette richement parée de la duchesse. Elle leur tournait le dos, dans une attitude très raide et un peu crispée, faisant face au brouillard. Ce ne fut qu'en arrivant derrière elle que le sire de Vaumacelle comprit que l'ouverture débouchait sur un abîme, et qu'elle, suspendue, s'y débattait vainement, griffant l'air de ses bras trop courts pour atteindre son agresseuse. Car la duchesse le retenait d'une seule main, par les cheveux, avec une force étonnante, en lui laissant tout juste la possibilité de s'appuyer sur le seuil de la pointe du pied. Par réflexe, le chevalier ceintura la dame et la tira en arrière. Elle lâcha le page. Mais celui-ci s'accrocha des deux mains à son poignet et fut allé avec elle à l'intérieur. Odéhard se dégagea avec un mouvement de dégoût de l'étreinte du sire de Vaumacelle, pendant que le garçon se réfugiait quelques marches plus bas entre Nem et le chevalier au pis. « Cette petite vermine a voulu me précipiter dans la rivière !» siffla la duchesse. « Ce n'est pas vrai !» se cabra qu'elle, les larmes aux yeux et les paumes plaquées sur son cuir chevelu. « Voyez-vous-même !» lâcha la dame sur un ton dédaigneux en s'écartant de l'embrasure. Au-delà du chambranle, le seuil se prolongeait sur une ébauche de vire qui dominait un précipice ouaté de brume. Malgré les vociférations qui convergeaient d'un peu partout dans la place forte, on pouvait entendre le grondement d'un cours d'eau remonté des profondeurs.
« Dans quelle impasse nous as-tu menés ?»
s'emporta le sire de Vaumacelle.
« Je ne suis pas bête à ce point !» regimba le freluquet. « Sortez la tête et regardez à gauche. Vous verrez l'escalier le long de la façade. »
Se méfiant presque autant de son page que de la duchesse, Edan répugnait à les perdre de vue. Il fit signe à son écuyer d'aller vérifier à sa place. Ayant prudemment appuyé une main contre l'encadrement, Nem risqua le haut du corps hors de l'édifice. Au bout d'un instant, il recula sans dissimuler son trouble.
« Qu'appelle-t-on cela un escalier ? »
s'effara-t-il. « Il y a des marches, non ? » rétorqua le petit valet.
« À peine quelques méchants corbeaux de pierre. Y a-t-il un escalier, oui ou non ? »
s'exaspéra Edan.
« Bien sûr ! » trépigna le page. J'y suis déjà monté jusqu'à la passerelle qui donne accès au castel d'Ingremance.
C'est une grimpée pire qu'un chemin de chèvre,
grommela Nem.
De quoi se rompre 100 fois le cou. Mais avons-nous le choix ?
Trancha Edan sur un ton sans appel. Reportant son attention sur la dame, il lui demanda
« Quel vous a-t-il poussé dans le vide ? »
Il a fait tout comme. Loin de m'avertir du danger, il a prétendu que nous arrivions sur un chemin de ronde.
« N'importe quoi !» ricana le page. « Ça se voit pourtant qu'il n'y a pas de courtine. Et c'est assez clair que c'est moi qu'elle a poussé. »
D'un geste menaçant, son seigneur le réduisit au silence. Trop pris par l'urgence de la situation, le sire de Vaumacelle n'avait pas le loisir d'éclaircir la question.
« Je vais prendre les devants, » décida-t-il. « Vous viendrez derrière moi, dame, et Nem couvrira nos arrières. Qu'elle aidera Sir Amelin à monter. Sir Cadelin fermera la marche sitôt qu'il nous aura rejoints. »
Quand il franchit le seuil, Edan marqua néanmoins un temps d'arrêt. Malgré les réserves formulées par Nem, il ne s'était pas attendu à ces pierres étroites, dépourvues de garde-fous et séparées par des espaces d'un pied qui grimpèrent roidement le long de la façade. Mais les rumeurs furieuses qui montaient de l'hôtel seigneurel et des cours de verre ne lui laissaient pas le choix. Entre deux maux, il fallait choisir le plus vertigineux. Marche après marche, le chevalier aux épines s'éleva le long de la muraille. Il avait remis l'épée au fourreau, glissé l'écu sur le dos, et s'efforçait de marcher aussi calmement qu'il aurait monté un perron. Mais l'espace insensé dans lequel il se mouvait possédait la texture des mauvais rêves. Ces abîmes intimes où le dormeur s'englue dans une catastrophe inévitable et indéfinie. Partout, hormis ces consoles de pierre saillies du mur, la certitude d'une chute que le brouillard menaçait d'être perpétuel. Et pourtant, par-delà cette taie posée sur le paysage, le monde retentissait de clameurs, de souffles, d'échos réverbérés par les remparts et l'altitude. Comme si les fugitifs se mouvaient à la jonction de deux univers, l'un fermé et étouffant, l'autre vaste et sonore, tous deux aussi prodigues de perspectives funestes. L'escalier tournait imperceptiblement avec la façade, telle une vrille pétrifiée autour de l'édifice. Le grondement caverneux de la rivière s'atténua, tandis que retentissaient plus fort, juste sous les pieds des grimpeurs, les vociférations de leurs poursuivants. En cherchant vainement à percer la brume des yeux pour situer où se nichait la menace, le sire de Vaumacel vit les gouttes de son sang tomber parfois dans les vides qui séparaient des degrés. Il jeta un coup d'œil en arrière afin de s'assurer que la duchesse ne faisait pas de difficultés. Elle grimpait derrière lui avec une fermeté inquiétante. Chaque enjambée qu'il apportait plus haut trahissait une impatience qui n'avait rien à voir avec la soumission. Parfois, elle relevait son capulet improvisé et toute son attitude exprimait alors une forme d'avidité tendue vers les cimes invisibles du château célestiel. « Vous l'entendez à présent ?» chuchota-t-elle sur un ton vainqueur. Eddan ne lui répondit pas. De toute façon, cela eût été inutile. Il eût fallu être sourd pour nier le charivari qui vrombissait dans les hauteurs. Accouru des horizons, le vent s'engouffrait dans les pinacles du château de verre en glapissant d'interminables litanies. Il bronchait sur les obstacles, sifflait dans les archères et les cheminées, ululait dans la gueule des gargouilles, huait sur la pente des toits, s'époumonnait sous les arcs boutants. On entendait mille voix mélancoliques ou démentes tourbillonner quelques toits au-dessus des grimpeurs, gémissant en réponse aux ordres et cris de guerre fusés des étages inférieurs. Le sire de Vaumacel accorda plus d'importance à l'allure de ses compagnons. Nem se retenait à la muraille, blanc comme un linge. Le chevalier Hopi ne pouvait monter les marches une à une qu'en prenant appui sur une jambe valide dans une claudication heurtée. Qu'elle faisait mine de l'aider, mais le page se montrait si remuant qu'il était probablement plus dangereux que secourable. Eddan reprit l'ascension, et pendant quelques instants, la progression de tout le groupe se fit régulière. Toutefois, le vent, de plus en plus vif à mesure que les grimpeurs s'élevaient, finit par déchirer à nouveau le brouillard. Soudain, la brume se déroba comme si on l'avait cisaillée. Ses voiles et faux filets se résorbèrent en tourbillonnant. Dans ses percées fuyantes, l'immensité du précipice se révéla en partie. On n'y voyait pas jusqu'au sol, et comme les nuées virevoltaient dans les turbulences de l'air, elles tournoyaient dans des directions divergentes. Cela donnait l'impression que le jaillissement de tours et de remparts sombrait par le travers dans une houle fumante, et les grimpeurs, à l'imitation de Nem, se raccrochèrent à la muraille. Ils eurent aussi le cœur transi par un cri horrible, poussé quasiment à leur oreille. Une éclaircie fugace les avait baignés de soleil. Toute arrogance envolée, la duchesse venait de hurler d'effroi ou de souffrance. Mais la gloire dorée s'éteignit aussi vite qu'elle avait illuminé le castel du Phêtre, et la captive encore frissonnante se tut. Malheureusement, son gémissement avait résonné dans toute la forteresse.
Un chœur de voix grondeuses lui répondit et accabla ses ravisseurs de malédictions. Certaines d'entre elles retentirent redoutablement proches, dans le puits de la tour évidée. « Ne restons pas ici, » dit le sire de Vaumacel. « Un combat sur cette vire sera fatal à tout le monde. » Se retournant à demi, en dépit du vertige, il tendit le poing à la duchesse pour l'encourager à reprendre la marche. Son geste fut dédaigné par la dame. Elle ne s'était recroquevillée qu'un instant sous l'ondée de lumière et venait de se redresser. Dans l'ombre du châle, sa face livide considérait les hauteurs loin au-dessus de son ravisseur. Un rictus bouleversé lui tordait la bouche, qui grimaçait un mélange d'effroi et de ravissement. « Eh bien, montez !» s'impatienta-t-elle. « Il nous faut gagner le bal avant la prochaine éclaircie !» Edan fit mine d'ignorer la folie du propos. Après tout, peut-être était-ce une image qu'il n'avait ni le cœur ni le loisir d'éclaircir. Il reprit aussitôt l'ascension, encourageant ses compagnons de la voie. Les yeux levés vers l'étroite volée de marche, il vit se dessiner au milieu des nuées les vastes arcs de pierre qui accotaient les castels du Phêtre et d'Ingremence. Les passerelles rayaient le ciel telles les ruines de portiques démesurés. Les plus proches lançaient au-dessus de l'abîme une voussure de pierre d'un élan et d'une légèreté inconcevables. Les plus élevés se réduisaient à de fantomatiques nervures, par moments drapées de brume. Le chevalier concevait mal comment atteindre ces arcs boutants. Et plus mal encore, comment il permettrait d'accéder aux fortifications de l'autre rive. Mais il n'avait plus le temps d'interroger ou de tancer son page. Il ne restait d'issue que dans la fuite vers le haut. L'écume glissante des vapeurs, enveloppant les crêtes et faites de verre, agrandissait encore la démesure du château. Ces falaises castrales, dont les crénelages crevaient la nue, donnaient l'illusion de se prolonger par-delà les nuages, hors de vue, jusqu'à rayer les sphères célestes. Les grimpeurs s'en sentaient déséquilibrés, presque aspirés vers le haut, comme s'ils devaient résister à la tentation d'une chute vers les empyrées. Mais ce vertige n'avait rien de grisant. Plus les fugitifs s'élevaient, plus le vent se faisait aigre, et plus les lourdes panses des nuées se teintaient de tuméfactions et de cendres. Dans les brouillards qui s'empêtraient sur culées, bretèges et tournelles, s'agitaient parfois des silhouettes ébauchées. Le plus troublant, toutefois, provenait des tumultes hôlés au milieu des rafales. Une musique horriblement désaccordée se coulait dans les risées de la tourmente. Comme pour donner raison à la marotte de la duchesse, un orchestre lâchait par bouffées de longs gémissements. Des chalumeaux expiraient en lamentables plaintes. Des sacqueboutes et des cornets haletaient de longs râles. Le sanglot des rebecs poignait le cœur. Des mandors rendait une âme grinçante. Tout cela courait dans les sautes de vent, suivant un rythme si péniblement allègre qu'il donnait envie de sauter pour se réchauffer la moelle.
« Quel est ce pandémonium ? »
s'inquiéta Nem.
« Je ne sais pas, » répondit-elle.
« Ça ne soufflait pas aussi fort la dernière fois. »«
Le vent n'explique pas tout, » s'inquiéta le chevalier au pied. Un ancien pouvoir vient de se ranimer. Nous sommes montés trop haut avec cette suzeraine trépassée. Les défenses du château, tramées par Sénargin, se sont réveillées.
Quoiqu'il parût en deviner davantage, il ne s'étendit point sur ses soupçons. L'expression grave, il redressait parfois la tête pour scruter le sommet des fortifications. La sensibilité de son peuple aux auras et aux charmes lui donnait une perception plus nette des forces affolées qui caracolaient sur les cimes. Toutefois, même le sire de Vaumacel et ses gens finirent par entrevoir des fantasmagories sinistres. Au milieu des brumes emportées,
Des ombres claquaient au vent telles des bannières effilochées. Certaines jaillissaient des fenêtres vides ou des meurtrières noires et houlaient violemment dans les airs. D'autres s'ancraient aux statues qui montaient la garde au sommet des édifices et les drapaient de fumée gesticulante. Les plus bruyantes, qui mêlaient leur stridence à la cacophonie de l'orchestre éolien, formaient une farandole décousue, captive des tourbillons, s'enroulant autour des faîtages inachevés. Ce ballet fantomatique, toutefois, ne refroidissait en rien la rage des gens de verre. Avec retard, le chevalier Auget fit son apparition sur leur raidillon, si loin en contrebas qu'il montait en fait sous les pieds de ses compagnons. Il dut toutefois faire volte-face, car à moins d'un jet de pierre, il était suivi par quelques sergents d'armes particulièrement audacieux. Avec une insolente agilité, Cadelin redescendit une dizaine de marches et s'apprêta à croiser le fer. Son adresse et sa témérité suffirent à intimider les hommes d'armes, qui se retirèrent prudemment. Mais ce sursis ne durerait guère. L'aventureux ne pouvait tenir longtemps une position si périlleuse. Du reste, le danger menaçait aussi en d'autres endroits. Nem attira l'attention de ses compagnons sur l'agitation qui animait, loin en contrebas, le sommet des courtines. Les grimpeurs ne pouvaient voir tout ce qui s'y passait, les toits des bretèches et des hours dissimulant en grande partie le chemin de ronde. Mais par endroits, des mouvements casqués et cuirassés étaient perceptibles entre deux galeries ou le long des garde-fous intérieurs. Quelques arbalétriers achevaient de tendre leurs armes. L'un d'eux mit même en joue les fugitifs, mais un ordre de Rivalon lui fit baisser sa mire. Sans doute l'écuyer du seigneur de Verre craignait-il d'exposer la duchesse au tir. Un autre péril alarma davantage les fugitifs. Les herses qui barraient le pont-levis entre les deux castels étaient relevées. Bientôt, une troupe lourdement armée fit gronder le tablier de bois sous ses solerets. Menés par le seigneur de Verre, ses gens de guerre gagnaient le castel d'Ingremance pour prendre les intrus à revers.
« Quel ? Où diable est ta traverse ?» s'écria Edan.
« Un peu plus haut. Nous sommes juste sous les arches. On y est presque. » De fait, au bout d'une dizaine de marches, l'immense voussure d'un arc boutant se dessina derrière l'arrondi du mur. Un dernier effort conduisit la maigre colonne à la base de la passerelle. Malgré l'urgence de la situation, le sire de Vaumacel marqua un arrêt en découvrant le passage qui enjambait l'abîme. Cet escalier, à peine large de deux coudées et dépourvu de tout garde-fou, s'élançait aussi raide qu'une échelle dans le défilé entre les fortifications. La rumeur de la rivière, voilée par le brouillard, remontait des profondeurs tel le ronronnement d'une guivre à l'affût.
« C'est cela la voie d'accès ?» demanda Edan avec incrédulité.
« Il fallait la dénicher, n'est-ce pas ?» se rengorgea Kel.
« C'est un chemin pour écureuils ou danseurs de cordes !» s'épouvanta Nem. « Les rafales nous pousseront dans le vide avant que nous touchions à l'autre castel !»«
Pensez donc !» rétorqua le page avec dédain. Si un moucheron comme moi est capable de passer, le vent ne vous fera ni chaud ni froid avec tout le fer que vous avez sur le dos. » Bien que le freluquet fût convaincu d'énoncer la vérité, sa sincérité devait davantage à la suffisance qu'au fait, car lors de sa précédente escapade, il n'avait pas franchi l'obstacle. En outre, avec son insensibilité coutumière, le petit valet considérait les blessures des gens de guerre comme de vulgaires égratignures. Plus fâcheuse encore, il fallait que la duchesse empruntât cette corniche. Le sire de Vaumacel se retourna vers elle, craignant que le vertige ne la fît broncher, ou qu'elle en prît prétexte pour ralentir ses ravisseurs. Étrangement, l'attitude de la dame démentit aussitôt ses craintes. Sur la marche étroite où elle s'était immobilisée, elle tapait même du pied avec impatience. Du moins, fût-ce la première impression qu'eurent Edan et Hamelin avant de réaliser qu'elle battait en fait la mesure.
« Eh bien, chevalier, auriez-vous peur ? » ironisa-t-elle sur un ton presque récitatif.
« Si vous avez le vertige, je reprendrai la place qui me revient et j'ouvrirai le bal. » Le chevalier Hopi lança un regard d'avertissement au sire de Vaumacel. Ils n'eurent pas besoin de plus pour se comprendre. Odéhard avait déjà montré tant d'aisance dans cette ascension que si on lui permettait de prendre les devants, elle pourrait profiter de l'occasion pour braver le vide et leur échapper. « Je passe devant », décréta Edan avant de tendre la main à sa captive. « Accrochez-vous à moi, madame. Je vous prie. » S'agit-il d'une invitation à un pas de deux? Tout en lâchant ce trait, Odéhard fit mine d'accepter le secours qu'on lui offrait, mais sa main dévia de l'extrémité du gantelet et vint se poser sur la cuirasse ensanglantée d'Edan. Elle la retira aussitôt pour porter ses doigts rougis à ses lèvres. « Vous voici paré pour la pavane, chevalier, » grimaça-t-elle. « Même votre sang est parfumé à l'eau de rose. Mais vous saignez sans compter, dépêchez-vous, tant qu'il vous reste un peu de sève. » Saisissant brusquement le poignet de la dame, Edan s'élança sur le raidillon. Il ne fallut que quelques marches pour que l'effroi vînt étourdir le couple de ses tourbillons. S'engager sur cette voie, c'était comme bondir en plein ciel. Les tours des deux castels penchaient sur les imprudents pour les écraser, tandis que le vent claquait dans les atours de la duchesse, tout en poussant dangereusement l'écu du chevalier. Plus moyen de revenir en arrière. Non seulement les marches en coin rendaient malaisée toute tentative de demi-tour, mais le chevalier Hopi, Nem et Kel s'engagèrent aussitôt sur les talons de la captive. Rester au voisinage de la duchesse représentait pour eux la seule garantie de ne pas subir les tirs des arbalétriers qui, plus bas, les gardaient à l'œil. Il y avait une centaine de degrés à gravir pour atteindre le castel d'Ingremence. Dans une bâtisse ordinaire, remonter d'un seul mouvement cette abrupte volée de marche eût déjà représenté un cruel effort pour des blessés. Sur ce chevalement incliné en plein ciel, où le moindre faux pas serait fatal, c'était jouer son va-tout. Parce qu'il s'exposait au vent furieux qui s'engouffrait dans le défilé, les fugitifs se retrouvèrent assourdis par la musique cacophonique du château célestiel. Au bout d'une trentaine de marches à peine, alors qu'ils s'efforçaient de garder les yeux braqués sur l'étroite passerelle, le sire de Vaumacel eut la sensation que la duchesse lui résistait. Elle tirait par à coup sur le bras qu'il avait empoigné, déchirant chaque fois un peu plus sa blessure et risquant de lui faire perdre l'équilibre. Il se retourna pour la semoncer et fut à deux doigts de décrocher. Odéhard, en fait, ne se débattait pas. Elle montait derrière son ravisseur et faillit le percuter. À la frayeur de la bousculade, vint s'ajouter chez le chevalier une sidération plus déroutante. Il comprit que la duchesse ne cherchait pas à se dérober à sa poigne. Elle s'agitait parce qu'elle dansait. Même à l'arrêt, elle continuait à sautiller dangereusement sur place, comme si elle ne pouvait se soustraire à la mesure imparfaite d'une basse danse. « Madame !» s'écria Edan. « Cet enfantillage est une folie !» Mais elle ne lui répondit point et continua à tressauter au rythme des hurlements portés par les rafales. « C'est le vieil enchantement !» clama Ameline derrière elle. « La magie de ces nargins l'a envoûtée. Il faut aller de l'avant. »«
Plus vite !» renchérit Nem. « Il y a quelque chose de mauvais dans l'air !»
Au moment de se remettre en marche, le chevalier aux épines se sentit flageolé. En s'adressant à Odéhard, sa vue avait plongé dans l'abîme. Pour reprendre l'ascension, il eut l'impression que le monde, les tours et les nuées avaient esquissé une vertigineuse ronde autour de son perchoir. Sa main demeurait secouée par la duchesse prise de Corée, et il se sentit envahi par la tentation d'accorder son pas à celui de la dame afin d'harmoniser leur allure. Odéhard s'en rendit compte. « Allons, laissez-vous porter, chevalier !» ricana-t-elle. « N'y a-t-il pas longtemps que vous dansez au bord du gouffre ?» L'insensé sarabande reprit son ascension. Insidieusement, la corémanie se diffusait aux cinq grimpeurs. Eddan était contaminé par l'agitation de la prisonnière. Derrière eux, le chevalier Hopi boitillait à contre-temps, parfois au bord de la chute. À sa suite, peinait Nem, poussé en avant par Kel, dont le trépignement d'impatience se calquait sur la mesure de la captive. Des ombres fugaces venaient compléter cette farandole désunie. Des lambeaux de brume s'accrochaient à l'arc-boutant, s'enroulaient autour de l'arche et joignaient leur voltige au chancellement de la file. Dans ces fumées, on doyait des figures floues, des gestes avides, de mortels invites. Les marcheurs étaient pris de frissons lorsqu'une main translucide ou un bras éthéré les effleurait avant de se disperser. Et la chair de poule qui les glaçait ne les incitait qu'à s'agiter davantage pour se réchauffer le sang. Le chevalier Hopi avait vu juste. La présence contre nature de la duchesse dans le château avait éveillé les vieux charmes défensifs de ses nargins. L'enchantement qui avait jadis égaré les esprits lancés à l'assaut de la place réveillait ceux qui y avaient été piégés. Mais deux siècles avaient passé depuis le siège de Ver. Et les âmes en peine, captives d'une si longue déréliction dans les leurs du château célestiel, avaient sombré dans un état crépusculaire où s'était dissoute une part de leur essence. Il n'en restait que des fantômes de fantômes, des séquelles de spectres dont la mémoire et le nom avaient été érodés par l'oubli. Doublement égarés par l'archonte nécromant qui les avait asservis et par le magicien qui les avait dupés, ces âmes profanées avaient d'abord été brisées avant de s'émietter dans la poussière des années. La musique de verre venait certes de les tirer d'une longue dormance dans les statues et les lacis du château célestiel, mais il ne restait plus de ces ombres que la trame souffrante qui avait permis jadis de les faire revenir dans le monde des vivants. Autour de la duchesse et de ses ravisseurs, virevoltait une tourmente de hantises diffuses et de cauchemars filandreux. Des haines squelettiques grinçaient des dents. Des remords décharnés gémissaient dans les rafales. Des amours déçus dénudaient leurs appâts osseux. Des rictus ébréchés mûrissaient des vengeances. Des cœurs dilacérés se calcifiaient de chagrin. Tous ces revenants, plus volatiles que la cendre, tentaient de s'agréger aux fugitifs, comme s'ils avaient l'espoir de ranimer par la danse quelque chose de perdu. Un trésor lamentable, la clé de leur mélancolie. Ils tourbillonnaient autour des blessés en essaim glacé, plus mordant que la grêle, et cherchaient à recouvrer un peu de chaleur en butinant leur sang. Cette farandole sépulcrale s'accélérait et s'enlisait tout à la fois dans une mélasse de mauvais rêves. D'instant en instant, le sommet de l'arche semblait de plus en plus inaccessible, tandis que les gens de guerre s'épuisaient. Le chevalier Hopi boitait si bas qu'à chaque pas, il était sur le point de verser dans le vide. Nem aurait fini par s'arrêter à mi-chemin sans qu'elle, désormais plus affolée qu'impatient, qui le poussait sans cesse vers le haut. En tête de cortège, le sire de Vaumacel titubait plus qu'il ne marchait, et sans doute se serait-il effondré s'il n'avait pas été porté par la mesure de cette volte macabre. Il sentait toutefois la vigueur inaltérable de la duchesse derrière lui, qui riait en rythme avec la danse. Et il était clair qu'Odéarde, malgré l'enchantement qui la dépossédait d'elle-même, voyait ses ravisseurs sur le point de sombrer et jouissait de leur fin prochaine. Alors, au moment où tout allait basculer, où ses forces allaient l'abandonner, où la chute paraissait inéluctable, le chevalier aux épines eut une inspiration désespérée.
« Laissez-nous » cria-t-il. « Laissez-nous, et sur ma foi, je vous aiderai. Je vous délivrerai de Ver. Je vous mènerai dans un lieu de repos. J'en fais serment !»